transparente. Quoi de plus normal, en effet, entre deux femmes enceintes, parce qu'elle savait qu'Elisabeth aussi était enceinte, quoi de plus normal, en effet, que de se rendre visite? On peut s'imaginer que deux femmes enceintes avaient beaucoup de choses à se dire. Hein, vous me direz peut-être, ah, mais de toute façon, deux femmes enceintes, elles ont toujours beaucoup de choses à se dire. Ouais, c'est un peu mauvaise gaga, mais... Alors, deux femmes enceintes avaient certainement beaucoup de choses à se dire. Des proches parents, peut-être elles s'étaient plus revues depuis un long moment. On savait qu'Elisabeth était stérile. Quelle grande joie qu'enfin cette femme puisse avoir le plaisir de porter un enfant en son sein. Et Marie aussi, ben, l'enfant qu'elle attendait était quelque chose de très très particulier. Donc elles avaient certainement plein de choses à se partager. Et dès qu'elles se saluent, là, il y a... une personne de plus qui se manifeste dans la salutation. Et qui est cette personne? En fait, c'est le Saint-Esprit. Je lis dans Luc 1, verset 42. Dès le moment de la salutation, Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là au moment de cette visite. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Elle commence à parler vraiment dans le nom du Seigneur, inspirée par Dieu lui-même. Et puis, vient le tour de Marie. Dès que le Saint-Esprit est là, Élisabeth, sans la présence du Saint-Esprit, elle commence à prophétiser. Et puis Marie, en réponse, elle se dit, « Oh, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme salutation ?» Non, elle est aussi sensible au Saint-Esprit. Et quand sa bouche s'ouvre, c'est pour proclamer une parole qui est une parole qui vient vraiment d'en haut. Une parole qui n'est pas d'une inspiration humaine, mais une parole qui est d'une inspiration divine. Marie dit, verset 46, « Mon âme exalte le Seigneur. » Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Le Seigneur a choisi une femme toute simple, une femme de la couche de la société vraiment en bas. Hein? C'était pas Marie, c'était pas une princesse. Marie, c'était pas la fille de quelqu'un de renommé. Marie, c'était une simple femme qui s'est mariée à un charpentier. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Dieu savait que Marie était dans une situation personnelle difficile, certainement. C'était pas des gens qui étaient remplis d'argent dans le porte-monnaie, hein, ou dans la bourse, plutôt, à l'époque. C'était des gens qui vivaient tout simplement. Et dans son humilité aussi, elle reconnaît que Dieu, si Dieu l'a choisi pour porter le Messie, c'est pas par ses mérites, mais c'est vraiment uniquement par la grâce du Seigneur. « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. » Et ce que Dieu a fait pour Marie, il l'a aussi fait pour nous. Et nous pouvons ce matin être encore dans la reconnaissance. « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge, de génération en génération. » La miséricorde de Dieu s'étend. Est-ce qu'elle est pour tous? Non. Elle est pour ceux qui craignent l'Éternel. Et ensuite, lorsque nous voyons les versets suivants, les verbes ici sont conjugués, nous le verrons, à un temps particulier, et ils sont conjugués tous dans ce temps-là. C'est un temps où il y a deux variantes, mais en fait, il est conjugué dans le même temps. Les verbes ici sont conjugués dans le même temps. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Ici, tous les verbes sont conjugués au même temps en grec. Quel est ce temps? Alors, c'est le temps, c'est l'aoriste. Hein? Ça, c'est un temps particulier en grec. C'est un temps, en fait, qui n'existe pas chez nous. En français, ça n'existe pas. L'aoriste, c'est un temps qui n'existe pas. C'est une particularité qu'on retrouve dans beaucoup de langues indo-européennes. Aujourd'hui, l'aoriste existe encore dans une langue comme le sanskrit, comme le serbe, le croate, le bulgare, le bosnien. Et puis, dans le grec moderne, l'aoriste, il existe encore, et bien sûr, dans le grec ancien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aoriste? Quel est ce temps? Alors, c'est un temps qui a une particularité. Et primitivement, c'était un temps qui n'avait pas de temps, quelque part. Certains vont dire que c'est le temps zéro. Hein? En français, on va le traduire souvent dans le passé, mais ma foi, on traduit avec ce qu'on a, on n'a pas tellement mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le grec, les conjugaisons, c'est extrêmement complexe, encore plus complexe le français. Moi, je me suis perdu dans le grec par rapport aux conjugaisons. C'est vraiment les déclinaisons verbales. Là, c'est sans fin. C'est un vrai casse-tête chinois. Il y a de quoi se faire mal à la tête. Et puis, on voit que le langage, quand même, à cette époque-là, était déjà extrêmement complexe. Hein? L'hébreu est plus archaïque, mais le grec, c'était vraiment une langue complexe. Ça demandait, pour celui qui voulait bien parler et bien écrire le grec, il fallait être des gens cultivés. Alors, si je prends un verbe, par exemple croire, qui se dit je crois, en grec qui se dit pisteo, si je le dis au futur, je croirai, il faut dire pisteo tso. Et puis si je crois mais à ce verbe aoriste, on va dire epistoioso, epistoisa. Alors je vais vous expliquer. Un petit cours de grec, hein, et vous verrez pourquoi je vous explique tout ça, parce qu'il y a un sens à tout ça, c'est pas juste pour élargir notre connaissance. Donc, un signe distinctif du futur dans le grec, c'est le S. Hein. Il y a un S qui est présent, pisteio, et puis au futur, c'est pisteiso. Il y a le S là qui apparaît. Ça, c'est un signe distinctif du futur. Et en fait, l'aoriste, il est construit à partir du futur, et puis au lieu que ça finisse par so, ça finit par sa, hein, tout simplement. Donc quand on voit un sa à la fin d'un verbe en grec, on sait que là, on n'a plus affaire à un futur, parce que oui, il y a un S, mais c'est plus un futur, c'est un aoriste, parce que l'aoriste est construit à partir du futur dans le grec. Vous me suivez? Je ne vous ai pas perdu, hein? Ça va? Pourquoi je vous dis ça? Pour essayer de comprendre la signification de ce temps verbal, parce que justement, il n'existe pas en français. Alors, il est construit à partir du futur, et pourtant, on le traduit au passé. Pourquoi? Parce que c'est un verbe qui donne l'idée de quelque chose d'accompli, quelque chose du passé, mais en même temps qui n'est pas encore complètement accompli. Hein? C'est encore inaccompli. C'est accompli déjà, mais c'est encore inaccompli. Vous comprenez? C'est particulier, cet aoriste. C'est pour ça comment est-ce qu'on va faire en français pour le traduire? Le français n'a pas cette subtilité dans les formes verbales. Alors, on va le traduire dans le passé. Et ça donne pleinement sens, parce qu'en effet, des fois, la traduction, ma foi, on traduit comme on peut, et puis on perd quelque chose ici avec la traduction du français. Ceux qui peuvent lire dans le grec, ils ont un avantage, parce que ça donne plus de profondeur au texte. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide. » quand on entend ce texte-là et qu'on voit aujourd'hui la situation de notre société, on doit se dire, mais pourquoi c'est parlé au passé, cette prophétie? Elle n'est pas encore accomplie. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Est-ce que vraiment les riches sont renvoyés à vide aujourd'hui? Est-ce que vraiment les tyrans de ce monde ont été renversés de leur trône? Est-ce que ceux qui avaient des pensées orgueilleuses dans leur cœur ont été dispersés, hein? Sans force, sans vigueur. Tous ceux qui ont eu des pensées orgueilleuses dans ce monde, allez, hop, ils s'en vont comme un petit nuage chassé par la tempête. Comment comprendre ce texte? Alors justement, l'aoriste nous donne de pouvoir le comprendre. Parce que c'est quelque chose que, dès le moment que Marie était enceinte, c'était déjà accompli. Dès ce moment-là, même que la croix n'avait pas encore été accomplie, mais simplement par le début de l'incarnation de vos dieux, c'est déjà accompli, c'est déjà fait. La victoire est déjà sûre, totale et complète. Seulement, elle va s'accomplir dans le temps. Sur la terre des vivants, il faudra du temps. C'est pour ça que cet aoriste, il y a une notion. Il y a une notion hors du temps, il y a une notion du futur, il y a une notion de déjà de l'accompli aujourd'hui, de cet acte-là que Jésus a fait simplement en s'incarnant sur cette terre, mais pour qu'il y ait la pleine manifestation de la pensée et de la volonté divine, ben, il faudra du temps, il faudra le temps de l'homme. L'aoriste, hein, comme je vous le disais, c'est un temps, on pourrait dire c'est un temps zéro, c'est presque un peu le temps divin. C'est hors du temps. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire, mais on touche à quelque chose un petit peu de mystérieux avec ici la pensée du Seigneur et ce que Marie a dit, inspiré par le Saint-Esprit. Alors ce monde, justement, quand on voit que cette prophétie n'est pas accomplie, on pourrait penser, mais Dieu, est-ce que vraiment il est si puissant que ça? Il suffit que l'homme se lève avec ses pensées orgueilleuses et pleines de vanité, qu'il écrase le faible, qu'il peut être le plus pire des tyrans, avoir un trône et n'être jamais déstabilisé de son trône. Hein. Peut-être on va juste pouvoir venir le chatouiller, mais jamais le faire tomber de son trône. Alors est-ce que Dieu est vraiment aussi puissant que cela? Parce qu'il n'a pas accompli sa parole. Est-ce que vraiment Dieu existe? À la limite, le monde peut se dire. C'est des belles paroles, mais Marie ici, elle a perdu la tête, parce que la réalité, elle est tout autre. Mais nous savons qu'il y a un temps du Seigneur. Il y a un temps de l'homme, mais il y a aussi un temps du Seigneur. Amen. Et nous savons que ici, ce verbe-là, il y a cette idée d'accompli, c'est déjà fait, devant Dieu. Même le plus puissant de ce monde qui se lèvera, qui sera l'Antéchrist, il est déjà terrassé. Alléluia. C'est déjà accompli, c'est déjà fait, parce que dès que Jésus était porté dans le sein de sa mère, c'était quelque chose d'accompli. Alors les gens de ce monde, en qui vont-ils se confier? Nous avons décidé de nous confier dans le nom de l'Éternel. Mais les gens de ce monde, en qui vont-ils se confier? Ben souvent, ils vont chercher à se confier dans les puissants de ce monde. Mais il faut bien réaliser qu'il y a des déceptions. Jean-François Hollande, avec ses belles promesses électorales en 2012, où il avait répondu à cette question d'une journaliste, « Mais si vous êtes président, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et il avait répondu, « Moi, président de la République, je... » Il y a toute une liste, si jamais elle est même marquée sur Wikipédia, hein, c'est resté gravé quelque part sur Internet. Hein. Moi, président de la République, on arrive bientôt à la fin de son mandat. Où sont ses promesses? Où sont les accomplissements de ses promesses? Ou on peut penser à Obama, que certains appellent Oblabla. Ça ne vient pas de moi. Hein. Oblabla. Où sont aussi les changements promis? Yes, we can. 8 années de règne, à l'heure du bilan, quels ont été les changements positifs pour les Américains? Et puis nous en Suisse, est-ce que c'est vraiment beaucoup mieux? Est-ce que la démocratie est encore respectée dans notre beau pays? lorsque nous voyons de quelle manière est mise en place l'initiative pourtant acceptée par le peuple du 9 février 2014 contre l'immigration de masse. Hein? Je ne vais pas donner ici mon avis sur le sujet, oui ou non, mais je vous parle dans le sens, est-ce que la démocratie est respectée? Parce que le peuple avait fait un choix. Et aujourd'hui, comment est-ce que nos représentants, comment est-ce que nos gouverneurs mettent ces choses en place? Eh bien, on doit dire que c'est un petit peu affligeant. J'ai vu une photo qui a apparu sur le 24 heures en début janvier 2015. Alors je vais vous la passer. On peut se la passer dans les rangs.
Cette photo,
c'est la photo de celle qui était cette année la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga. Et puis, elle est en train de se faire embrasser de manière presque langoureuse par qui ? Par Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission européenne. Hein? Alors, ces gens-là, ce sont les officiels quand même, et de l'Europe, et de notre pays. Et puis, ils s'embrassent quand même d'une manière un petit peu, pour ainsi dire, particulière. Je reprendrai le papier après la photo. Est-ce que vous pensez que vraiment ces personnes-là sont en train de défendre le peuple ? Elle était allée à Bruxelles pour justement parler de liberté de passage des gens, hein, parce que ça venait, cette initiative en Suisse venait confronter cette pensée unique de l'Europe où on dit tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, on a le droit tous de transiter d'un pays à un autre sans aucun contrôle. C'est l'utopie, ça. On le voit aujourd'hui avec toute la délinquance et toute la violence qui naît d'un tel fonctionnement. L'Allemagne, si elle voulait pas de terroristes, si elle voulait régler le problème aujourd'hui, il faudrait qu'elle recontrôle ses frontières, tout simplement. Je vous assure que ça irait beaucoup mieux. Ces gens-là qui sont censés être le représentant de leur peuple, comment est-ce qu'ils se comportent, hein? Moi, je suis désolé, mais c'était une visite officielle. Il doit y avoir un petit peu de dignité, un petit peu de retenue, un petit peu d'honneur. Pas se laisser embrasser comme une femme. Moi, je trouve affligeant cette photo. Honnêtement, je trouve qu'elle est affligeante. Pour une personne qui est censée avoir une prestance, on a l'impression qu'on est, je ne sais pas, un banquet entre amis ou je ne sais pas quoi. Elle est là pour défendre la position du peuple. Et cette photo montre que déjà les carottes, quelque part, sont cuites. Hein? Alors, en qui notre monde va-t-il se confier? Dans la paix? Dans l'humilité? Dans la foi en Dieu? Ou peut-être un jour encore plus dans leurs fusils, leurs grenades, leurs explosifs, leurs armes meurtrières? Et toi, en qui vas-tu te confier? Humblement à l'Éternel? Si oui, c'est alors la preuve que la sagesse de Dieu conduit ton cœur, comme la description que nous allons lire dans le livre de la sagesse que je vous ai parlé avant, d'un homme qui a marché sur cette terre, dont la pensée de la justice divine face au désordre qui l'entourait. Alors je lis. Alors le juste se tiendra debout, plein d'assurance, en présence de ceux qui l'ont opprimé, de ceux qui méprisaient sa peine. À sa vue, ils seront pris d'une peur épouvantable, sidérés de le voir sauvé contre toute attente. Saisis par les remords, ils se diront entre eux, la gorge serrée, incapables de reprendre souffle. Le voilà, celui que nous tournions jadis en ridicule. Nous en faisions la cible de nos sarcasmes, fous que nous étions. Nous trouvions absurde sa manière de vivre et infâme sa mort. Pourquoi est-il compté parmi les fils de Dieu? Pourquoi partage-t-il le sort des saints? En fait, nous sommes égarés loin du chemin de la vérité. La lumière de la justice ne nous a pas éclairés et le soleil ne s'est pas levé sur nous. Nous nous sommes saoulés d'injustice sur les sentiers de perdition, nous avons traversé des déserts impraticables. Mais le chemin du Seigneur, nous ne l'avons pas connu. À quoi nous a servi l'orgueil et que nous ont rapporté la richesse et la prétention? Tout cela a passé comme une ombre, comme une rumeur fugace. Comme le navire traverse une mer agitée sans qu'on puisse retrouver la trace de son passage, ni le sillage de sa coque sur les vagues. Comme l'oiseau vole à travers l'espace sans qu'on trouve aucune empreinte de son parcours, du battement de ses ailes, il fouette l'air léger, le fond avec violence dans le sifflement de son vol, et le traverse sans qu'on trouve signe de ce passage. Comme la flèche lancée vers la cible déchire l'air aussitôt refermé, si bien qu'on ignore quelle fut sa trajectoire. Ainsi de nous, à peine mais nous avons disparu, nous n'avons pu montrer aucun signe de vertu, et de notre malice nous nous sommes consumés. L'espoir de l'impie est comme un brin de paille emporté par le vent, comme l'écume légère chassée par l'ouragan. Il se dissipe comme fumée au vent, il passe son chemin comme le souvenir de l'hôte d'un jour. Les justes, eux, vivent pour toujours. Le Seigneur détient leur récompense. Le Très-Haut prend soin d'eux. Ainsi recevront-ils de la main du Seigneur le royaume de splendeur et le diadème de beauté, car de sa droite il les protégera et son bras les couvrira. Ce texte nous montre, on est vraiment dans un texte de sagesse de l'époque de l'Ancien Testament. On a vraiment ces pensées-là où on voit qu'il y a une justice de Dieu malgré tout, malgré les apparences, malgré les difficultés qu'on peut traverser. Même si la personne va mourir d'une mort terrible, on ne sait pas. Le bras de l'Éternel, au final, c'est lui qui jugera. Et même si on peut opprimer le faible, et même si le puissant peut en faire ce qu'il en veut, Dieu dit, dans sa justice, un jour viendra le jour de sa colère. Mais pour le juste, Dieu nous promet encore son royaume. C'est étonnant ici, dans ce texte qui date quand même avant du Nouveau Testament, il nous est parlé du royaume. Il y a peu de textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent du royaume. On trouve dans le livre de Daniel, on trouve une pensée aussi un peu comme ça dans le livre d'Ésaïe. Mais ici, il nous est aussi clairement parlé du royaume. Je trouve intéressant de ce texte. C'est quand même prophétique. La personne qui l'a écrite était quand même sur certains points inspirée par le Saint-Esprit, c'est certain. Avoir cette pensée du royaume, cet homme qui ne savait pas encore que Jésus était si proche à sa porte, en fait. Il avait déjà, dans son cœur, médité cette pensée du royaume à venir, malgré toute l'injustice qu'il voyait au travers de sa vie de tous les jours. Et pour nous, aujourd'hui, je me dis, ce texte, il est d'une actualité terrible. Pour nous, aujourd'hui, on est témoin un peu aussi de ce que cet homme a vécu dans son temps. Mais Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne nous oublie pas. Et Dieu n'oublie pas le mal qui nous est fait aussi, parce qu'il est un Dieu de justice. C'est vrai que si on nous fait du mal, si les personnes s'inclinent et demandent pardon devant Dieu, nous devons de toute façon pardonner. Mais voilà, les choses peuvent être restaurées. Mais si les personnes ne s'inclinent pas, aujourd'hui on doit quand même dire que les puissants de ce monde ne s'inclinent pas et demandent plutôt rarement pardon devant Dieu pour leurs erreurs, pour leurs manquements, pour leur toute-puissance qui n'ont servi qu'à corrompre le monde dans lequel ils se trouvent. Notre vie n'est qu'une vapeur de courte durée. Et on se rappelle de ce temps aoriste, de l'accompli, mais encore inaccompli. Ces promesses dans le cantique de Marie, elles vont se réaliser. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est dans ce temps-là. Mais peut-être un peu comme l'auteur de ce livre de la sagesse était proche du temps de Jésus, peut-être nous aussi nous nous trouvons proches de ce temps-là. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Alléluia. Nous avons cette assurance aujourd'hui que si nous ne voyons pas, pourtant, au grand mystère, c'est déjà accompli. Et je finis avec le livre de la sagesse, on continue le chapitre suivant. Écoutez donc, ô roi, et comprenez, instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples, car la domination vous a été donnée par le Seigneur et le pouvoir par le Très-Haut. Lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondra sur vous, terrifiant et rapide, car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Nous servons un Dieu de justice. Et même si nous endurons l'injustice, nous savons que Dieu est notre justice. Marie l'a proclamé du fond de son cœur, inspirée par la puissance du Saint-Esprit. Et ce message et cette parole que Marie nous a laissée, elle est là encore vérité pour nous. Alors oui, un grand jour s'est levé, une grande lumière s'est levée pour chacun d'entre nous, une espérance extraordinaire. Même si pour un temps encore, il faut que nous passions par les souffrances du Christ. Amen.